quand la cure se termine très vite.
Quand on va voir un psychanalyste, on n'en sort plus. Eh bien, ça, c'est un préjugé. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple, une cure de 3 séances. On peut difficilement faire plus court. Un autre préjugé, d'ailleurs, c'est qu'il n'y aurait d'analystes en cabinet, que les analystes ne sortent pas de leur cabinet, qui serait à Paris, dans le 16e arrondissement, ou dans le 6e, le 7e. Les psychanalystes, ce serait pour les beaux quartiers. Ça a été vrai. Ça a été vrai il y a 50 ans. Mais ça n'est plus vrai. La psychanalyse est beaucoup plus populaire que on ne le croit parfois, qu'on ne le dit, parfois de façon intéressée. La psychanalyse a influencé en France la très grande majorité des psychiatres, des psychologues, et aussi il y a des éducateurs, il y a des infirmières qui en ont la notion. Et il y a donc un grand nombre de praticiens qui se réfèrent à la psychanalyse et qui travaillent dans des institutions de soins. Il y a même des centres ouverts par des psychanalystes. Et c'est là, je vais me référer à un centre gratuit qui a été ouvert en Espagne. Mais il y en a en France aussi. Et ces praticiens qui travaillent en institution sont courageux par les temps qui courent, puisque se référant à la psychanalyse, ce qu'ils offrent, c'est des traitements sur mesure, pour chacun sur mesure, et non pas qu'on les invite maintenant, souvent par une pression institutionnelle et étatique qui se fait pesante ces temps derniers. On les invite à faire du prêt-à-porter. On veut que ça tourne vite, évidemment. Quand il s'agit de psychanalyse, eh bien, ça n'est pas au rabais. Alors, il y a là, d'ailleurs, un conflit qui est en cours entre les praticiens qui s'inspirent de la psychanalyse et puis ce qu'on essaye de faire naître d'une nouvelle catégorie de psy, dit comportementalistes, qui, eux, essayeraient de traiter, il faut bien dire, à la va-vite, pour obtenir des effets qui sont souvent très transitoires. Mais aujourd'hui, je veux essayer de vous parler d'un cas qui a été rapporté très récemment par un collègue espagnol et qui a été discuté par une collectivité importante. Il y avait 200 personnes pour discuter ce cas et un certain nombre d'autres. Il s'agit de Marta. Marta est angoissée, elle n'en peut plus, elle a 30 ans, elle est mariée, mère de 3 petites filles, dont l'aînée a 8 ans, la cadette 2. Et, au fond, l'analyste ne l'a vue que 3 fois. Et c'est pourtant quelque chose qui est, à sa manière, complet. La première fois, elle raconte entre 2 sanglots... la situation dans laquelle elle se trouve. Que s'est-il passé? Il y a quelques mois, elle s'est, dit-elle, réveillée. n'avait jusqu'alors vécu qu'en fonction de son mari et de ses filles, et puis d'un seul coup, elle s'est rendue compte que ce qu'elle vivait était insupportable. À savoir que son mari ne cesse de la maltraiter, non pas physiquement, mais en parole. Il lui rappelle à tout moment qu'il l'a sortie du ruisseau, qu'elle ne sert à rien, qu'elle ne vaut rien, etc. Mais en fait, ce qui pèse le plus soudainement à cette femme, c'est que son mari est dominé par sa propre mère, la mère du mari. Cette mère habite loin, un autre pays, mais la mère et le fils se téléphonent constamment. Et cette mère fait souvent le voyage pour passer des mois chez eux. Et le mari ne fait rien sans consulter sa maman. Il la tient au courant de tout, et sa maman lui dicte tout ce qu'il doit faire. Et donc, elle veut se séparer, mais elle n'a pas de famille, elle est sans travail. Et son mari lui dit d'ailleurs qu'elle est tout à fait folle de vouloir cette séparation, puisqu'elle ne pourra pas du tout subvenir à ses besoins. Voilà l'essentiel de ce qu'elle dit la première fois. Et l'analyste, enfin, c'est un analyste, c'est-à-dire qu'il ne prend pas la chose, dans l'actualité. Il lui fait simplement une question. Il lui demande si quelque chose de semblable lui est déjà arrivé dans sa vie. Et alors, c'est cette seule question, au fond, qui porte sur une éventuelle répétition, fait que Martha lui raconte que, à l'âge de 21 ans, qui était à l'époque l'âge de la majorité en Espagne, elle avait perdu sa grand-mère maternelle, qui l'avait élevée et qui avait toujours été un soutien pour elle dans sa vie. Et alors, perdant cette grand-mère, elle s'était sentie très mal, avait commencé à prendre de la cocaïne, avait abandonné ses études, s'était séparée de celui qui était son compagnon, avait même entamé une thérapie, et alors elle avait rencontré celui qui allait devenir son mari. Et l'analyste se contente de lui signaler la répétition, qu'elle rencontre à nouveau la même situation qu'à la mort de sa grand-mère. Et que, comme jadis, elle est aujourd'hui devant une situation où, enfin, il lui incombe d'agir pour son propre compte. Que déjà au moment de la mort de la grand-mère, elle n'avait pas pu assumer son accession à la majorité légale et que, au fond, c'est la même impuissance qui ressurgit dans cette nouvelle situation. Et, au fond, il ajoute, ça se termine là-dessus, que, au fond, son angoisse signale qu'elle doit accéder à de nouvelles responsabilités, que son angoisse a de la dignité. Ce n'est pas simplement un dysfonctionnement et qu'il s'agirait de l'éliminer ou de le médiquer, mais que cette angoisse signale une difficulté vitale qu'elle a déjà connue et qui doit être respectée, enfin qu'il respecte. La deuxième fois, Martha arrive vêtue d'un t-shirt sur lequel est écrit « No stress » en anglais. Et on ne peut pas s'empêcher d'entendre dans ce « no stress » le mot « tres » qui, en espagnol, veut dire « trois ». Et il y avait un problème de « trois » dans ce couple. Et elle apporte le récit d'une seconde répétition, c'est-à-dire qu'à l'âge précis qu'elle a actuellement, sa grand-mère s'était retrouvée veuve avec trois enfants et avait dû assumer une charge lourde de les élever. Et elle parle alors elle-même de ses trois filles, dont seule la première a été désirée, et donc qu'elle avait eu des sentiments de culpabilité à la naissance des deux plus jeunes, et surtout de la dernière, née 2 ans auparavant, et que son mari l'avait négligée alors, et qu'elle avait été confiée aux soins de la mère de son mari, et elle se sent coupable d'avoir laissé les choses se faire de cette façon. Et alors, elle se rapproche au fond de la décision qu'elle doit prendre. Il lui manque, dit-elle, que de se sentir plus forte pour faire devenir indépendante économiquement. Et puis, elle se rend compte qu'elle se trouve devant un choix forcé. Troisième séance, elle parle de sa grand-mère. Au fond, c'est sa grand-mère qui l'occupe. Elle revit la force de son lien à cette grand-mère et elle se souvient qu'après la mort de cette grand-mère, elle était la seule de la famille à s'occuper de sa tombe. Elle dit que 2 jours avant cette séance, elle a raconté à une amie qu'elle pleurait, que cette amie lui a dit que jusqu'alors, elle ne l'avait jamais vue pleurer. Et Martha ne s'était jamais rendu compte qu'elle ne pleurait pas, qu'elle ne pleurait plus et même... Elle se souvient qu'elle n'avait pas pleuré à la mort de sa grand-mère chérie, comme si le deuil n'avait pas été fait, avait été laissé en suspens pendant tout ce temps, et comme si quelque chose aujourd'hui s'accomplissait de ce deuil non fait. Elle dit aussi qu'on va peut-être lui proposer un travail, elle termine par une petite histoire qui comporte une colère de son papa au moment de visiter en famille son village natal. Et il n'y a pas eu de quatrième séance parce que elle a téléphoné au centre pour dire qu'on lui avait en effet proposé un travail et qu'elle ne pouvait pas venir à son rendez-vous. On lui a proposé de revenir. Elle a répondu qu'elle viendrait un de ces jours. Elle n'est pas revenue. Et quelque chose s'est passé en 3 séances qui n'est pas incomplet. À un moment donné, au fond, elle a saisi qu'elle avait un rôle de tiers dans son couple, et si je puis dire que la mère était mariée avec son fils, et qu'elle, elle était en plus, que le lien essentiel pour le mari était celui qu'il attachait à sa propre mère, et qu'elle, sans doute, elle avait été nécessaire pour avoir des enfants, du fait de l'interdit de l'inceste, mais que symboliquement, il y avait un inceste entre la mère et le fils, et qu'elle n'était que la troisième. C'était pas un couple, c'est un trio. Et ça faisait trop de monde dans ce couple, enfin, pour... C'est une expression de la défunte princesse Diana, si je me souviens bien. Alors, le chiffre 3 est là présent. Cette personne ne se réveille qu'après avoir donné 3 filles, on doit constater. Et on voit bien ce qui aurait pu se poursuivre, parce que elle a vécu avec cet homme très longtemps. On peut se demander pourquoi une femme accepte de rester mariée 10 ou 12 ans avec un homme qui est marié avec sa propre mère. Eh bien, c'est sans doute parce qu'elle-même était simultanément mariée avec sa grand-mère, si je puis dire. Et en 3 séances, quelque chose s'est défait de la structure de ce faux couple, qui a révélé, au fond, 2 couples, le mari avec sa mère et la patiente avec sa grand-mère morte. Et qu'elle était toujours en deuil de cette grand-mère, après tout ce temps écoulé. Et donc, au fond, parce que le praticien, le thérapeute, là, savait quelque chose de la psychanalyse, il n'a pas traité le problème actuel. Est-ce que vraiment votre mari est méchant? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de quand même de lui faire comprendre que sa mère est de trop et que non, ça a été au fond tout de suite saisi à partir de ce qui était la vérité de la situation, à partir de cette répétition. À la 3e séance, elle s'est dépeinte elle-même comme la seule qui s'occupait de la tombe, celle qui portait des fleurs sur cette tombe, enfin celle, et qu'au fond, tout ce temps-là, elle a fait la cour à la grand-mère morte, si je puis dire. Alors, évidemment, est-ce qu'on peut considérer que cette cure brève est complète ? On voit bien les lignes de fuite par où elle pourrait se poursuivre. Mais Freud, en effet, pour lui, l'analyse était de toute façon interminable par structure, qu'on n'en avait jamais fini d'élucider l'inconscient. Donc pour lui, la guérison était comme telle quelque chose de très suspect. Il parlait de fuite dans la guérison. Que plutôt que de continuer à analyser, on préfère faire comme si on était guéri. Lacan, lui, avait l'idée que les analyses se terminent bel et bien. Eh bien, ces trois séances, ça n'est rien. Mais c'est essentiel dans la vie de cette femme. Mais ces trois séances donnent l'idée du caractère terminable d'une analyse. Disons qu'il s'agit, et même que c'est assez exemplaire, d'un premier cycle dans une analyse. Et il y en a beaucoup de tels cycles dans une analyse. Et à chaque fois, la question se pose pour l'analysant de prendre son bénéfice, de s'en aller ou d'aller plus loin. On peut toujours refaire des tours, mais chaque cycle de l'expérience à sa complétude. Alors il reste le mystère de la rage du père au moment du retour à son village natal, où il se met soudain en fureur et commence à insulter sa fille. Eh bien, l'hypothèse qu'on a pu faire, c'est que le mariage de la patiente avec un homme resté lié à sa mère, en fait, répétait la structure du mariage de ses parents à elle. C'est-à-dire que sa propre mère, sans doute, avait été liée à la fameuse grand-mère et que le père de la patiente en souffrait, tout comme elle-même souffrait du lien entre son mari et sa belle-mère. Et on a donc supposé que, lors de ce retour au village natal, ce père n'a pas pu supporter cet amoindrissement devant sa fille, et ce pourrait être la raison pour laquelle il l'aurait insultée. Mais tant qu'elle ne reviendra pas, frapper à la porte de l'analyste, elle n'en saura pas plus long, et nous-mêmes non plus.